ministre dans les nuages, c'est le cas de le dire, puisqu'on a. Voilà. Alors, c'est parti. Je regarde. Oui, c'est bon. Arrêtez l'enregistrement. Non, c'est bon, c'est ça. Bien. Donc, si vous avez les bibliographies, je vais juste. Alors, première chose. Sur ce qui a été dit la semaine dernière, est-ce que vous avez déjà des questions avant de commencer ce que je vais raconter ce soir? Je préviens, je ne suis pas très frais parce que j'ai eu déjà une matinée, une après-midi de télétravail dans une autre formation. Et donc, je vais essayer de rester à peu près performant, mais bon. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai raconté la dernière fois?
Non,
Non.
moi, il m'a plongé dans une, ça nous a plongé dans une réflexion intéressante personnelle sur la différence de morale et éthique, d'autant plus que dans le groupe, nous avions un sujet, un texte de Monseigneur Rouet,
Oui.
très intéressant, dont nous avons parlé justement hier, nous avons décortiqué hier avec le
Oui.
groupe dont Marianne faisait partie. Et ben ça, c'est bien. Moi, je suis contente de découvrir le vrai sens de la morale, le vrai sens de l'éthique et comment ça me parle dans ma vie chrétienne.
Bon, alors, en ce qui concerne la bibliographie que vous avez reçue, puisqu'il n'y a pas de question particulière, la bibliographie, elle est, vous voyez, elle est déjà un peu longue, mais pourtant ce n'est qu'une bibliographie indicative, hein, je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité. Alors, j'allais dire, normalement, vous trouvez ces livres à la bibliothèque du CIF, mais encore faut-il pouvoir aller au CIF, mais bon, voilà. Il y a un certain nombre d'ouvrages déjà qui sont au CIF, en particulier les dictionnaires. Donc, j'ai classé la bibliographie comme on le fait habituellement, c'est-à-dire les ouvrages de référence, si vous voulez, les documents de référence que sont les dictionnaires, les ouvrages du magistère. Alors, ça, c'est quand vous. En théologie catholique, on est obligé de faire comme ça, c'est-à-dire on cite d'abord les ouvrages du magistère et on les cite par ordre d'importance, si vous voulez, doctrinale des textes. Par ordre décroissant, des plus importants aux moins importants. Et puis après, j'ai mis un certain nombre d'ouvrages qui balayent notre parcours, mais qui balayent uniquement d'un point de vue indicatif, c'est-à-dire qu'il y en a plein d'autres, hein, et je n'ai cité que quelques ouvrages des principaux auteurs. Donc c'est vraiment suggestif. Alors, dans les dictionnaires, il y a plusieurs types de dictionnaires. Il faut savoir que les dictionnaires d'éthique ou de morale vieillissent très vite, parce que l'éthique, ça vieillit extrêmement vite, c'est-à-dire qu'il y a un avis du CCNE tous les 15 jours. Avec l'épidémie, le professeur Delfraissy est particulièrement prolixe. Et donc, avec les débats sur l'euthanasie, c'est pareil. Et donc, vous avez. Il y a la caractéristique de l'éthique, c'est que c'est très vite périmé. Et donc les dictionnaires d'éthique se périment aussi très vite, mais pas tout. Cependant, pas tout. C'est-à-dire que dans les dictionnaires de fond, si vous allez sur les articles grâce, loi, morale, éthique, je sais pas moi, justification, écriture sainte, gradualité. Péché, salut, faute, tout ce que vous voulez, ça, les articles de fond, sur des notions de fond, ne vieillissent pas comme ça. Ça demeure. Donc, vous pouvez toujours vous référer substantiellement, on va dire, aux grands articles de fond des principaux dictionnaires. Mais ce qui vieillit très vite, c'est tout ce qui touche à la bioéthique. Là, ça vieillit très vite, vous voyez, parce qu'il suffit qu'on réforme une loi, par exemple, précisément la loi de bioéthique, la loi Claeys-Leonetti, notamment sur l'euthanasie, vous voyez les débats récents. Et là, en quelques mois, un article est périmé à 50% parce qu'il n'intègre pas les derniers avis, il n'intègre pas les derniers avis sur les derniers avis, et il est partiellement périmé. Ça peut être vrai aussi pour le magistère. Hein. Moi, je me rappelle avoir écrit dans un dictionnaire un article sur l'homosexualité, mais je me suis arrêté au pontificat de Benoît XVI. Donc, tout ce que le pape François a dit ou a fait, y compris le texte récent de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ce n'est pas dans l'article. Donc, mon article doit s'arrêter à 2013, on est en 2021, il y a eu d'autres déclarations, d'autres textes officiels qui ne sont pas dans l'article. Alors, dans l'article, tout ce que je raconte sur l'écriture, sur la tradition, les sciences humaines, tout ce que vous voulez, ça c'est valable, mais c'est un article qui a partiellement vieilli, il a déjà 8 ans, et il n'inclut pas le pontificat de François, et il s'est passé des choses pendant le pontificat de François. Bon, c'est comme ça. Donc, faut pas... Faut pas vous affoler, mais les grands dictionnaires de morale, l'article vertu, il reste valable pour toujours, si je puis dire. Hein. Mais l'article clonage, par exemple, va forcément vieillir très vite. Donc, faut pas vous être surpris par ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a différents types de dictionnaires. Que vous pouvez consulter en morale ou en éthique. Vous avez par exemple, j'ai indiqué le dictionnaire de Jean-Louis Brugès. C'est un dictionnaire déjà ancien, mais qui est intra-catholique. Donc, si vous cherchez des notions intra-catholiques, vous les trouvez assez bien dans son dictionnaire de morale catholique. Je n'ai pas de préférence à indiquer dans les dictionnaires, mais celui qui commence maintenant à avoir pas mal vieilli, que j'ai coordonné moi-même il y a 8 ans déjà, le dictionnaire, c'est ce que j'ai fait moi, avec une équipe de 100 collaborateurs, il y a déjà longtemps, pour moi c'est une autre vie, je vais le chercher, ne bougez pas. Voilà, ce dictionnaire-ci, je ne sais pas s'il s'affiche dans le bon ordre pour vous. Bon, c'est le dictionnaire le plus récent. Vous voyez, il est très léger. Hein. Mais il est déjà vieux, puisqu'il a été édité en 2012-2013. Mais c'est actuellement, je ne dis pas ça parce que j'en étais le coordinateur, mais je dis ça uniquement pour une question de date. C'est actuellement le dictionnaire ou un des dictionnaires les plus récents. Il a l'avantage d'être écuménique, donc d'être rédigé avec des auteurs catholiques et des auteurs protestants, et l'un ou l'autre auteur orthodoxe. Mais bon, si vous regardez l'article moral là-dedans, il est tout à fait valable encore aujourd'hui. Si vous prenez l'article clonage, il aura déjà vieilli. C'est la limite. Mais je vous conseille, pas forcément ce dictionnaire, mais voilà, sachez que la théologie morale a aussi ses instruments de référence, comme toutes les disciplines de la théologie, et il y a plusieurs types de dictionnaires. Hein. Et les protestants ont fait beaucoup de dictionnaires aussi en éthique qui sont très bien, très très bien. Et quand vous allez consulter un article, un dictionnaire protestant, vous ne vous étonnerez pas de ne pas trouver l'article magistère, hein, par définition. Donc voilà, il faut, je dirais, user avec discernement de ces grands outils de référence. Alors, en ce qui concerne les textes, je range ça et je reviens. En ce qui concerne les textes du magistère, alors là, là, c'est important, je pense, pour vous, de... Un dictionnaire, ça se consulte quand on a besoin de faire une recherche spécifique sur un article. Bon. Mais les encycliques, là, c'est peut-être important de les lire. Alors, peut-être pas toutes, mais au moins de lire une ou deux grandes encycliques de morale, parce que c'est vraiment les textes qui font encore autorité. Quand je dis dans les textes du magistère, le plus important, c'est les textes, ce sont les encycliques. Pourquoi ? Parce que les encycliques, comme on vous l'a sûrement dit, c'est le plus haut degré d'autorité d'un texte du magistère. C'est un texte signé par le pape et qui a le plus haut niveau d'autorité. Après, il y a des textes un peu moins, qui ont un peu moins de niveau d'autorité. Les textes signés par le pape ont le plus haut niveau d'autorité. Puis après, il y a des textes qui sont signés par ce qu'on appelle des préfets de congrégations, comme la Congrégation pour la doctrine de la foi, et que auquel le pape consent en mettant sa signature en bas, ou pas. Parfois, il n'y a pas besoin de signature du pape, c'est un texte d'une congrégation. Alors, c'est moins important, mais c'est souvent sur des questions un peu plus précises qu'une encyclique, un peu plus ponctuelle aussi, si vous voulez, mais voilà. Alors, ce que je vous recommande, si vous voulez lire une encyclique, s'il y en a une ou deux à lire, je vous suggère de lire l'encyclique Persona Humana du pape Paul VI, de la personne humaine. Excusez-moi, l'encyclique Humanae Vitae, Paul VI, 1968. J'en ai parlé dans mon introduction la dernière fois. Humanae Vitae en 68, c'est la grande encyclique sur la régulation des naissances. C'est très intéressant de commencer par une encyclique comme ça parce que vous serez dans l'ambiance de 68. Il faut bien se dire qu'en France, cette encyclique a été lue selon la grille de mai 68. Vous voyez, sur la régulation des naissances, c'était particulièrement chaud, hein. Donc, 68, c'est cette encyclique-là qui a été, j'en ai un tout petit peu parlé la dernière fois pour vous dire qu'elle a été mal reçue, en particulier dans les pays d'Europe occidentale, et on m'a fait la remarque d'ailleurs très juste, si elle est mal reçue, est-ce que c'est grave ? C'est une vraie question. Une encyclique, même si elle n'est pas reçue, demeure vraie, mais le fait qu'elle ne soit pas reçue, évidemment... On ne peut pas dire que ce soit un grand succès, si vous voulez. C'est une vérité, elle est faite pour que le peuple de Dieu se l'approprie et en vive. Si le peuple de Dieu ne se l'approprie pas, c'est de même dommage. Et on ne peut pas dire que l'encyclique Humanae Vitae était particulièrement bien reçue. Je vais répondre à la question, mais je termine juste ce point-là. Alors, Humanae Vitae, c'est important. Je ne sais pas si c'est une question d'ailleurs, mais parce que je vois un stylo qui... Mais non, ce n'est pas ça. Donc, Humanae Vitae, c'est important parce que c'est une encyclique, encore une fois, qui a marqué le basculement du pontificat de Paul VI. Hein, et on dit beaucoup que Paul VI a été très, très affecté lui-même parce qu'il ne s'attendait pas à ce que son encyclique ne soit pas reçue. Je pense que c'est intéressant de la lire parce que vous aurez tous les grands concepts de morale fondamentale et de morale conjugale dans cette encyclique. Et elle reste valable. Ce n'est pas parce qu'elle est de 68. Je veux dire, les papes suivants ne peuvent... Vous savez, le principe catholique, hein, un pape ne peut pas en contredire un autre. Donc, il y a forcément un développement homogène des encycliques et des dogmes. Et donc, l'encyclique a beau dater de 68, elle dit encore ce qui est la norme aujourd'hui. La norme, voir si elle est appliquée, mais enfin, elle dit encore la norme pour aujourd'hui en termes de régulation des naissances. Vous avez Ensuite, si vous voulez en lire une deuxième, mais vous pouvez lire l'une ou l'autre, hein, moi je ne suis pas un fanatique des encycliques, mais je pense que c'est une bonne introduction parce que les papes font aussi de la théologie, hein, ils ne font pas que des dictées, des normes. Et donc il y a de la théologie dans Humanae Vitae, une certaine théologie, et puis il y a de la théologie dans la deuxième encyclique que je vous recommande, qui est La splendeur de la vérité. En latin, c'est Veritatis Splendor. Et c'est une encyclique de Jean-Paul II. Alors là, c'est très important aussi, à mon avis. Alors, si vous. Humanae Vitae, c'est sur la régulation des naissances. Donc, si vous voulez un focus sur ce thème-là, c'est ça qu'il faut lire. Mais si vous voulez une encyclique plus globale sur la morale, et en particulier une encyclique sur les théories morales, il faut lire la splendeur de la vérité. Hein, vous avez vraiment là une actualisation par Jean-Paul II de la théologie morale que préconisée par le magistère, par le Vatican. Bon. Les deux sont intéressantes. Si vous avez s'il y a des philosophes parmi vous, il n'est pas inintéressant non plus de se confronter à l'encyclique toujours de Jean-Paul II qui s'appelle La foi et la raison, Fides et Ratio. C'est pour les philosophes moralistes, vous savez que la philosophie morale, c'est une branche de la philosophie. Alors, c'est une encyclique, quand on n'est pas philosophe soi-même, qui est un peu plus technique. Elle est peut-être un peu plus âpre à lire. Si j'étais mauvaise langue, je dirais qu'il n'est pas sûr que tous les évêques aient compris ce qu'ils ont lu. Parce que vous savez que les encycliques sont d'abord adressées aux évêques, en réalité. Hein. Quand vous regardez la titulature d'une encyclique, vous avez à mes frères, à nos frères évêques, etc. Et tout en bas, il y a nous. C'est-à-dire, ah, aux simples fidèles, c'est nous. Voilà. Mais. Pour lire la foi et la raison, il faut être déjà un bon théologien. Hein, et je ne suis pas sûr que tous les évêques aient fait assez de théologie pour lire Fides et Ratio. Après tout, c'est compliqué, hein, Fides et Ratio. Fides et Ratio, c'est un choix parmi les théories éthiques en cours, enfin, et c'est une actualisation de la philosophie morale. Enfin, ce n'est pas si simple. Je suis un peu vache, hein, en disant. Parce que moi aussi, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Donc, elle est plus technique, celle-là. Mais moi, je commencerai, si vous avez jamais lu d'encyclique sur ces thèmes-là, par Humanae Vitae ou Veritatis Splendor. Après, vous pouvez aussi lire des textes un peu plus qui ne sont pas des papes, donc qui ne sont pas des encycliques, qui sont sur des points particuliers. Par exemple, j'ai mis dans la bibliographie l'instruction Donum Vitae, le don de la vie. Donum Vitae, c'est assez intéressant, c'est sur encore un point de morale sexuelle, puisqu'il s'agit de la question de la fécondation artificielle. Fécondation in vitro, homologue, hétérologue, etc. Et donc, c'est la toute première prise de position de l'Église catholique sur les questions de fécondation artificielle au moment, si vous vous rappelez ce débat, de la pilule RU 400 et des brouettes. Hein? Et donc c'est la première prise de position, évidemment, complètement négative du magistère sur la FIVET. Et donc les méthodes de fécondation artificielle. J'ai dit complètement négatif parce que, par exemple, sur ce sujet, nos frères protestants n'ont pas exactement le même point de vue. Voilà, ça c'est une question. Vous voyez, c'est une question plus récente. Bon, alors dans la bibliographie, il faut ajouter les grands textes du pontificat actuel. Alors là, chez François, il y a l'embarras du choix, hein, mais Peut-être que l'encyclique qui a le plus marqué pour le moment le pontificat de François, c'est évidemment Laudato Si, c'est-à-dire l'encyclique sur l'écologie, l'écologie dite intégrale. On pourra en parler d'ailleurs si vous voulez, mais Laudato Si, c'est un texte relativement long qui peut se lire par n'importe qui puisque je le lis, mais qui fait quand même appel à des compétences, par exemple, économiques, sociales, etc., puisque l'écologie intégrale inclut tout cela. Donc, Laudato Si, c'est un bon texte à lire. Et puis, je serai vous, là encore, une possibilité dans les textes du magistère, vous pouvez lire l'exhortation apostolique du pape François qui s'appelle Amoris Laetitiae, qui est le. Alors, vous savez, à chaque fois qu'il y a un synode à Rome, à la fin du synode, le pape écrit une exhortation qu'on appelle tout bêtement post-synodale, dans laquelle il tranche et il donne son point de vue et son enseignement. Alors, le synode sur la famille à Rome, qui a eu lieu en deux temps, sur deux années différentes, a donné lieu à beaucoup de controverses, si vous avez suivi un peu ce synode, et à une exhortation qui était très attendue, qui elle-même a été très discutée, Amoris Laetitiae. C'est l'exhortation dans laquelle le pape se prononce dans une forme absolument étonnante, enfin pas étonnante quand on connaît le Vatican, mais il se prononce dans une note de bas de page sur l'accès possible à la table eucharistique pour les divorcés remariés dans certaines conditions. Allez, faut bien lire le texte, hein, parce qu'il faut aller chercher dans une note de bas de page une ligne sur, je ne sais pas, c'est un texte qui doit faire 120 pages. Hein. Vous avez une note, une ligne qui dit que c'est possible sous certaines conditions. Vous voyez, c'est les textes du Vatican, il faut les lire de très très près. Hein, parce que c'est souvent...
C'est Amoris Laetitiae.
Amoris Laetitiae, oui.
D'accord.
Amoris Laetitiae, et puis la grande encyclique, pour le moment, il va peut-être en écrire d'autres, hein, mais la grande encyclique de François, c'est sur l'écologie, hein, Laudato Si. C'est dans Laudato Si où il prêche la décroissance, par exemple, ce qui est un choix économique tout à fait novateur, si vous voulez, et qui tranche, hein, parmi les théories économiques en cours, les modèles économiques. Ça, c'est pour les textes du magistère. Bon, je ne fais qu'en mentionner, mais il y en a d'autres. Hein. Alors, encore que dans la bibliographie, j'ai mis à peu près tous ceux que je connais, donc c'est à peu près exhaustif. Après, j'ai mêlé dans ma bibliographie des essais sur des questions particulières et puis des textes plus généraux, plus ou moins difficiles. Hein. Là, c'est un petit peu en fonction de vos intérêts que vous pouvez aller regarder, puiser, chercher, par exemple, les textes les œuvres de Xavier Thévenot, que je ne puis que vous recommander, parce que Xavier Thévenot, je le dis depuis 20 ans, mais depuis 20 ans, ça n'a pas changé en France, Xavier Thévenot demeure le dernier théologien moraliste français, catholique français, à avoir écrit une œuvre. Après, on n'y a plus. C'est-à-dire qu'après, on glose, on commente, on écrit des articles, on fait des colloques, on publie beaucoup de colloques, mais on n'écrit pas une œuvre. Il n'y a actuellement aucun théologien moraliste catholique français qui ait écrit une œuvre. Certains, comme moi, coordonnent des dictionnaires, d'autres écrivent, publient leurs cours de morale, d'autres écrivent sur une question particulière, mais vous n'avez plus de théologien, c'est pas seulement vrai pour la morale, hein, mais en morale, c'est vrai aussi, qui écrit une œuvre. On peut dire qu'il a, que, que, Alors, Thévenot n'a pas pensé ses livres comme une œuvre, mais au total, ça fait une œuvre. Hein? Et donc, je ne saurais trop vous recommander Xavier Thévenot parce que ce sont des ouvrages très accessibles dans leur écriture et qui balaient des domaines très variés, de la morale fondamentale à certains domaines de morale spéciale, mais pourquoi pas aussi à la spiritualité, à la liturgie aussi. Et donc, c'est vraiment une référence extrêmement précieuse que Xavier Thévenot et une très bonne introduction à la théologie morale après le Concile. Hein? J'ai mis aussi les cours de Jean-Louis Brugès. Jean-Louis Brugès, il a d'abord enseigné la théologie morale à Fribourg en Suisse, puis il a été nommé évêque d'Angers, puis il est parti au Vatican. Mais quand il était professeur à Fribourg, il a publié son cours de théologie morale fondamentale. Alors, ça pourrait me dispenser de vous le faire, mais vous avez, si vous le souhaitez, il y a plusieurs tomes, hein, du cours de théologie morale fondamentale de Jean-Louis Brugès. C'est très bien fait, je pourrais signer dès demain, hein, c'est très bien écrit, il n'y a rien à redire. On a tous nos marottes et nos façons d'écrire, mais c'est un cours qui est très bien fichu et qui reste tout à fait accessible à un étudiant, même débutant en théologie morale, c'est bien. C'est pas pour s'occuper pendant le confinement. Je vous dis pas que c'est spécialement fun, mais enfin, voilà, si vous voulez accompagner ce qu'on fait, vous pouvez prendre ce cours-là. Vous avez également le cours de morale fondamentale qui est dans la bibliographie de Alain Thomasset. C'est un jésuite, Thomasset, hein, qui enseigne au Centre Sèvres. Et quand j'étais moi-même éditeur, j'ai eu l'honneur de publier, son cours. Et donc, je suis le premier à dire que c'est un bon cours, puisque je l'ai publié, sinon je ne l'aurais pas publié. Mais le cours de théologie de morale fondamentale d'Alain Thomasset est tout à fait recommandable aussi. C'est peut-être un petit peu plus jargonnant, je trouve, que Brugès, parce que Alain Thomasset est un ricœurien, donc il a beaucoup travaillé l'éthique de Paul Ricoeur, et on trouve un petit peu le vocabulaire de Paul Ricoeur et les thèmes chers à Paul Ricoeur dans son cours. Mais enfin, c'est bien fichu, c'est bien ficelé. Voilà. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire, hein. Texte du magistère, outils de référence, cours de morale fondamentale, les essais sur des questions générales ou ponctuelles, et puis moi je vous recommanderais ce qui fait le moins peur et ce qui est le plus fructueux, c'est Xavier Thévenot. C'est assez dramatique de vous dire ça, parce que vous voyez, ça fait une génération qu'il n'y a plus de théologiens moralistes en France. Si je dis ça, c'est extrêmement provoquant, mes collègues m'arracherait les cheveux qui me restent ou les poils de ma barbe, mais en réalité, il y a beaucoup de théologiens encore en France, moralistes, mais on n'a plus le temps d'écrire. Et ce n'est pas le confinement, le télétravail qui va nous aider à écrire. Donc on écrit des articles, on fait des cours en télétravail, on fait ce que je fais là, hein, on publie des colloques de temps en temps qui ne sont pas lus par personne, mais on n'a plus de. Aucun d'entre nous n'a le temps d'écrire une œuvre. Et ceux qui le voudraient, bah, sont pris par les charges administratives, par les cours, par son professeur ordinaire dans les facultés, on n'a plus le temps. Bon, c'est dramatique, mais ça change le visage de la théologie, vous voyez, parce que ça veut dire je ne sais pas ce qu'on va laisser à nos successeurs, mais je suis encore obligé aujourd'hui de vous dire que Xavier Thévenot, qui a publié au milieu des années 80, quand même, hein, est le dernier en France à avoir fait une œuvre parmi les théologiens catholiques français. C'est-à-dire que vous allez à la Procure Paris, faites le test, vous verrez que vous trouverez en bonne et due forme les ouvrages de Xavier Thévenot, aujourd'hui, en 2021. Excusez-moi, je regarde mon téléphone parce que je veux voir s'il y a une catastrophe, puisqu'une fois qu'il y a des gens qui me... Ah oui. Voilà pour la bibliographie. Bon. Alors, je vais reprendre maintenant le fil de notre cours. La dernière fois, j'ai posé le décor, hein, j'ai planté le décor. Autour du Concile Vatican II, parce que le Concile Vatican II a été un moment charnière. J'ai parlé de révolution, c'est peut-être trop fort, j'ai parlé de réforme, ça me semble plus juste. Il faut prendre le terme de Vatican II lui-même, la mise à jour, aggiornamento, disons que c'est un moment charnière, avec un concile qui n'est plus dogmatique, mais un concile pastoral, qui associe tout le peuple de Dieu à la théologie. Hein. Bon, donc c'est quand même un moment. On pourrait peut-être dire que Vatican II a été disruptif, quand même. Pas complètement en morale, hein. Comme je vous l'ai dit, Vatican II ne change rien à la morale sexuelle et familiale, puisque Vatican II n'a pas abordé, tout simplement, Vatican II n'a fait que répéter ce qui s'est dit avant, et Paul VI n'a pas voulu aller plus loin sur la morale sexuelle. Les pères s'étaient déjà copieusement engueulés, excusez-moi l'expression, sur la liturgie, sur le dialogue interreligieux, sur l'écuménisme. Donc, Paul VI a dû se dire « basta », et puis il a arrêté le concile. Bon. Il y a dans le texte de Vatican II de vraies réflexions en morale économique et en morale sociale. Ça, c'est très imprégné du contexte du temps. Donc là aussi, ça a beaucoup vieilli. Et je ne le dis pas de moi-même, je le dis parce qu'un ancien professeur du Centre Sèvres me l'a enseigné. Et donc, je vous redis ce qu'il m'a enseigné à l'époque. C'est le père Christophe Théobald, pour ceux qui connaissent ce théologien. Christophe Théobald enseignait la chose suivante. Il disait, je suis certain, il y a déjà 10 ans, hein, je suis certain que tous les évêques français n'ont pas lu l'intégralité du texte du Concile. Alors, je voudrais que vous mesuriez la portée de ce que je suis en train de vous dire. Hein. Il y a déjà 10 ans, Christophe Théobald disait ça. Je suis persuadé que les évêques, en particulier les plus jeunes, si vous voulez, hein, n'ont pas lu l'intégralité du texte du Concile. Or, c'est ce concile, notamment, pas exclusivement, hein, mais c'est ce concile notamment dont ils ont la garde et la charge de l'enseignement. Mais ils n'ont pas intégralement lu. Je vous assure que partir en vacances avec l'intégralité des textes du concile, c'est pas marrant. Hein. C'est très long, c'est copieux, et il y a des textes d'une aridité... sauvage. Donc, voilà. Le traverser de A à Z, ça demande un vrai effort. Enfin, bien. Alors, j'ai pris ce moment charnière du Concile et je vous ai dit qu'après, qu'on allait remonter à travers le temps et que nous allions, ce dont je vous parlais aujourd'hui, nous allions remonter en particulier aux sources scripturaires de la théologie morale. Donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui, si vous voulez, Bible et morale. On pourrait intituler ça comme ça, Bible et morale. Alors pourquoi Bible et morale ? Vous savez que vous l'avez dû le voir ça dans le cours sur la Christologie ou le cours de théologie fondamentale, si vous avez eu ça. La révélation. Le christianisme est une religion révélée, jusque-là vous me suivez. La révélation, au Concile de Trente, hein, le grand concile de la, de théologie fondamentale, c'est le concile de Trente. 1560 des poussières, 1563, enfin ça dépend des textes. C'est le grand concile qui s'interroge sur les sources de la révélation pour répondre à Luther et au principe luthérien du sola scriptura, seule l'écriture. Ce concile, le concile de Trente, établit, commente, articule deux sources de la révélation, à savoir l'écriture sainte, la Bible, premier pilier, deuxième pilier, la tradition. La tradition qui est sous l'autorité du pape, des évêques, hein, l'interprète authentique de l'écriture. C'est les sources de la révélation. Vatican II. Je ne dirais pas que Vatican II modifie, mais Vatican II précise ce que dit le Concile de Trente en soulignant que le grand principe qui interprète la révélation, ce n'est pas d'abord l'écriture. Je suis un petit peu schématique, hein, mais tant pis. Ce n'est pas d'abord l'écriture, ce n'est pas d'abord la tradition, c'est Jésus le Christ. Donc la source et le sommet de la révélation pour un chrétien, ce n'est pas d'abord le texte, même si c'est le texte sacré, ce n'est pas non plus la tradition qui commente le texte sacré, c'est Jésus lui-même qui est la clé de la révélation. Alors nous allons maintenant explorer une des sources de la révélation dans son lien avec la morale, puisque on essaye de faire ensemble un petit peu de théologie morale. Il y a différentes manières de... Il y aurait beaucoup de manières d'ailleurs de vous faire ce cours. Hein. Donc je vais en retenir une à ma manière. Il y aurait d'autres manières probablement de le faire. Alors, la première manière de vous parler de Bible et morale, vous pouvez faire cet exercice, c'est d'aller voir ce qui se passe dans les textes du magistère. Parce que les textes du magistère utilisent l'écriture. Je vous disais tout à l'heure, en commentant la bibliographie, les grandes encycliques, les motu proprio, etc., en morale, mais comme dans tous les domaines de la théologie, en morale, le magistère se sert de l'écriture. C'est plutôt une bonne nouvelle. Quand même pas complètement coupé de l'écriture. Bon. Donc le magistère n'arrête pas de se servir de l'écriture, de la Bible, pour élaborer sa théologie morale. Mais faites le test et allez voir comment il le fait. Alors c'est très intéressant parce qu'il le fait, à mon avis, c'est de la mauvaise théologie. À savoir, le magistère élabore une norme en morale, propose une loi en morale, et dans un second temps justifie son élaboration, sa réflexion, sa norme par un recours à l'Écriture sainte. Ce qui est étrange, mais ce qui est habituel dans les textes du magistère, c'est-à-dire que l'Écriture sainte vient en appui, vient étayer la norme morale. Alors, c'est un peu étrange parce que la logique voudrait, enfin, la, on peut essayer de faire de la logique même en, quand on fait de la théologie, hein, la logique voudrait que on laisse parler le texte biblique et que dans un second temps, à partir du texte biblique, on en tire un enseignement moral. Mais en réalité, le magistère ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne à l'inverse. Il y a d'abord un enseignement moral, et pour le justifier, on met une note de bas de page et on dit, ben, comme le dit le texte de l'Écriture sainte. Alors, pour les enseignants parmi vous, c'est, vous voyez bien que c'est un peu gênant parce que on sollicite le texte. Hein? Au lieu de laisser parler le texte, on vient le solliciter pour appuyer une réflexion qui est préalable. Alors, c'est, pour les théologiens moralistes, c'est très gênant parce que si vous voulez, quand vous commentez un texte de Mgr Rouet, vous avez dit tout à l'heure, vous avez cité le thème, on lit le texte ensemble, on cherche à comprendre ce qu'il veut dire, et puis on en tire tel ou tel enseignement. Mais on laisse parler le texte. A fortiori, quand c'est le texte sacré, faut-il le faire ainsi? C'est-à-dire, on lit le texte de l'Écriture sainte, et puis après, on voit quel enseignement moral, y compris pour aujourd'hui, on peut en tirer. Ce n'est pas ce que fait le magistère, la plupart du temps. Même Jean-Paul II, hein, il y a des... Alors, la différence, le risque, pardon, c'est de prendre le texte sacré pour un prétexte. Et en théologie morale, c'est assez souvent ce qui est fait. Alors, une fois que... je vous dis ça parce que c'est un premier repérage que vous pouvez faire vous-même et une première réflexion que vous pouvez vous faire en disant, moi, comment je fais si j'ai une question morale qui me travaille, comment je fais pour comment je fais pour utiliser la Bible, comment je me sers de l'Écriture sainte quand je me pose une question morale. Alors, ça va jusqu'à présent? On peut peut-être... Est-ce qu'il y a une autre question ou pas? Non, ça va?
Oui, moi j'avais une question. Oui. Enfin, une remarque, parce que je trouve ça extrêmement dangereux, parce que le texte, surtout des textes anciens, comme ça, on peut leur faire dire n'importe quoi. On peut leur faire dire ce qu'on veut. Et est-ce que maintenant, avec il y a plus de lectures narratives ou je sais pas comment, oui, historico-critiques, enfin, le magistère ne se remet pas en cause, n'essaye pas de prendre le texte pour ce qu'il est? Il reste sur cette position?
C'est pas si facile que ça de répondre à la question. L'interprète authentique de l'Écriture, c'est la tradition elle-même élaborée par le magistère, si vous voulez. Hein. Bon. Comme pour tous les sujets, toutes les questions morales ne sont pas incluses, ne sont pas décrites, ni exploitées, ni travaillées par l'Écriture sainte. Le clonage, ce n'est pas dans l'Écriture sainte. Certaines questions y sont, mais pas toutes. Donc, ce que fait le magistère, et la manière dont se déploie la tradition, c'est ce qu'on peut appeler une herméneutique. Ah, je suis désolé, je suis obligé d'utiliser ce mot-là. C'est un gros mot, mais ce n'est pas grave. Herméneutique, ça veut dire en grec, interpréter. Donc, le magistère se livre à un travail d'interprétation de l'Écriture. Et et c'est l'interprète authentique. Maintenant, pour répondre à votre question aussi, il faut se remettre dans le contexte de ce qu'on appelle, de ce qu'on appelait autrefois les deux magistères, puisque à l'époque, puisque les deux magistères, c'est-à-dire que normalement, si tout fonctionnait bien, il y aurait le magistère des évêques en communion avec le pape, et puis autrefois, on considérait que les théologiens avaient un magistère aussi. Donc la question que vous posez, c'est la question de la place du théologien laïc que vous êtes, ou des ministres ordonnés que je suis, dans l'interprétation de l'Écriture sainte. Hein, puisque au nom de du sacerdoce commun, vous avez la possibilité d'interpréter vous-même l'Écriture sainte, mais pas seul, puisque le principe catholique d'interprétation, c'est que c'est la communauté croyante qui interprète. Vous voyez, c'est un peu différent du principe protestant, encore différent d'ailleurs des orthodoxes, c'est que, si vous voulez, la communauté catholique, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, interprète le texte sacré. Dans ce travail d'interprétation, il y a évidemment le magistère, c'est-à-dire les évêques en communion avec le pape qui exercent la fonction de régulation de la foi, mais il y a également nous qui faisons un peu, beaucoup ou pas du tout, ou à la folie ou passionnément, de la théologie. Hein? Il est évident que ça c'est donc la question que vous posez, c'est le travail de le dialogue, si vous voulez, dans l'interprétation du texte sacré, pour les questions de morale en particulier, entre ce qu'on a appelé autrefois, maintenant plus du tout, le magistère des théologiens, en communion avec le magistère romain. Hein? Normalement, c'est une tâche que nous pouvons faire assez facilement depuis Vatican II. Maintenant, vous dire que le Vatican sollicite beaucoup les théologiens que nous sommes, en morale, pour Romain Évité, typiquement, hein, Paul VI avait réuni une commission de théologiens et il a pris l'avis contraire de la commission de théologiens, c'est son droit le plus strict. Pour Laudato Si, le pape François a pris l'avis de nombreux économistes chrétiens. On dit d'ailleurs qu'il a pris l'avis de certains et pas d'autres, mais enfin, il a choisi certaines thèses économiques et il les a validées dans son magistère. Hein? Donc, le magistère est parfaitement capable de travailler en communion avec d'autres et de travailler en communion avec nous, heureusement, hein? C'est-à-dire qu'il y ait une espèce de c'est peut-être un peu excessif, mais d'élaboration commune. Mais sur les questions de morale les plus aiguës, c'est-à-dire principalement la bioéthique et l'éthique familiale, c'est pas tellement ça. J'aurais du mal à vous dire que c'est ça. C'est plutôt un magistère hiérarchique, unique et comment dirais-je, descendant qui s'impose au peuple de Dieu. Je vous parlais tout à l'heure de Donum Vitae. Donum Vitae, c'est l'instruction sur la fécondation in vitro. Certains théologiens ou théologiennes laïques pensaient que ça pouvait être accepté par Rome, certaines formes de fécondation artificielle dans le couple marié, etc., à certaines conditions. Toutes les formes de fécondation ont été refusées. Seule la fécondation naturelle a été acceptée. Bon. Voilà. La difficulté avec la morale, c'est que, vous voyez, on peut pas ne pas le faire, parce que toutes les questions de morale ne sont pas traitées dans l'Écriture sainte. Et donc, dire l'Écriture sainte, c'est la source, oui, mais pas pour tout. Enfin, pas pour tout. Il y a des questions de morale qui ne sont pas traitées. Il y a des questions... Jésus ne traite pas de toutes les questions de morale. Il en traite quelques-unes, si vous vous souvenez bien, mais très peu, en fait. très très peu. Donc c'est difficile de se retrancher derrière Jésus, si je puis dire, pour les questions de morale, parce qu'il parle du divorce, il parle du mariage, puis c'est à peu près tout. Alors, après, vous faites quoi? Vous voyez, il y a besoin d'une parole croyante dans le développement de l'histoire pour les questions de morale qui ne sont pas abordées directement par l'écriture ou qui ne sont abordées qu'indirectement. Et donc, une mauvaise façon de faire, c'est de prendre le texte comme prétexte, comme je vous l'ai dit. Hein. La bonne façon de faire, c'est de laisser parler le texte et puis d'en tirer les enseignements dont on pense qu'ils s'imposent. Alors, il est presque 9h. Eh bien, écoutez, je vous propose de nous retrouver dans 10 minutes. On fait une petite pause, c'est-à-dire vers 21h07, dans ces eaux-là. D'accord? Alors, à tout à l'heure. Hein. Bon. Bien, alors rebonsoir. Bien, alors on va voir si on va jusqu'à 22 heures, je commence un peu à fatiguer, mais bon. Alors sur Bible et morale, il faut lever aussi une autre hypothèque, enfin il faut lever un autre lièvre si vous voulez. On peut tout de suite dire qu'il n'y a pas de morale biblique. C'est un petit peu peut-être étonnant de l'entendre comme ça, mais en gros, y a-t-il une morale de la Bible? Réponse, non. C'est très difficile, hein, ce serait très difficile de soutenir une thèse comme ça. Il y a une morale. Que dit la Bible en morale? La Bible dit ça. Elle dit une chose, et puis elle dit toujours la même chose, et puis il y aurait une unité morale, si vous voulez, du corpus biblique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une morale biblique. Il y a des morales bibliques, ou si vous voulez, des éthiques biblique. À ce jeu-là, je vais me concentrer sur le Nouveau Testament pour vous essayer de vous montrer ce qui est maintenant très bien accepté à la fois par les biblistes et les moralistes. Vous savez, c'est toujours très rigolo quand on fait des colloques entre biblistes et moralistes parce que chacun s'observe comme ça pour voir comment on va faire. Hein, c'est pas si facile que ça. Mais maintenant, il y a, comme on dit dans les sciences, un très large consensus scientifique pour dire que la chloroquine, ça marche pas. Vous savez, bon. Alors là, il y a un très large consensus scientifique pour dire qu'il n'y a pas une morale biblique, mais plusieurs. Ce qu'il y a à recueillir de la Bible, c'est plusieurs morales, plusieurs éthiques. Donc il y a une variété des modèles éthiques, on peut dire, dans l'Écriture sainte, et je vais essayer de vous le montrer en me concentrant sur le Nouveau Testament, parce que comme ça, ça permet aussi de... Si je me concentrais sur l'Ancien Testament, je ferais tout le cours sur ce point. Donc, je vais prendre juste l'exemple du Nouveau Testament, mais vous pourriez faire le même exercice beaucoup plus long sur l'Ancien Testament, en particulier en vous, par exemple, vous pourriez vous concentrer sur la morale de ce qu'on appelle les petits prophètes. À tort, on les appelle les petits prophètes parce que ce sont des livres courts. Mais en fait, ce sont des grands prophètes dans leur enseignement moral. Hein, les petits prophètes sont des gens qui ont un enseignement moral tout à fait révolutionnaire. Vous savez, ces textes où, en gros, il faut renverser les couches des riches et puis renverser les maisons et les tables. Les petits prophètes ont beaucoup dénoncé l'injustice sociale. C'est un point de morale de l'Ancien Testament, il y en a plein d'autres. Alors moi, je vais surtout me concentrer sur le Nouveau Testament. Et vous allez voir que dans le Nouveau Testament, qui est quand même beaucoup plus court que l'Ancien, il y a déjà une pluralité de modèles éthiques. Est-ce que c'est un problème? Non. Une chance. Ça veut dire qu'on trouve beaucoup de choses différentes dans l'Écriture sainte quand on s'intéresse à la morale ou à l'éthique, hein. Prenons par exemple, premier exemple que je vais donner dans le Nouveau Testament, les épîtres de Paul. Bon, vous savez comme moi que les épîtres de Paul sont les textes les plus anciens du Nouveau Testament. C'est-à-dire, si on fait l'hypothèse, alors maintenant je ne sais pas où ils en sont dans leur théorie, parce que la bioéthique ça change tout le temps, mais alors l'exégèse, hein, je peux vous dire que ça change au moins aussi vite que la bioéthique. Hein. Mais enfin, quand j'ai fait mes études, on posait l'idée que le corpus néo-testamentaire avait été rédigé pour les évangiles entre 60 et 100, en gros. 60, 90, 100 après Jésus-Christ. Parmi ces textes les plus anciens, c'est-à-dire les plus proches de Jésus lui-même, ce ne sont pas les évangiles, c'est certaines épîtres de Paul. Et en particulier les épîtres aux Thessaloniciens, qui probablement sont très anciennes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans les épîtres aux Thessaloniciens, il y a des choses stupéfiantes, à savoir les deux épîtres aux Thessaloniciens, ce sont des épîtres rédigées dans un contexte d'urgence, hein, d'urgence eschatologique. C'est-à-dire, on entend ça à la messe très souvent. Est-ce qu'on y prête vraiment attention? C'est-à-dire, les gens, les premiers chrétiens, attendaient le retour du Christ de leur vivant eux-mêmes, n'est-ce pas? Avant même de mourir, de leur belle mort, si je puis dire, ils attendaient le retour imminent de Jésus-Christ. C'est pour le coup, alors là, dans le texte, la première aux Thessaloniciens, vous avez ce climat. Vous avez un climat. Alors, ce climat d'urgence eschatologique, d'imminence de la fin des temps et de retour du Christ, c'est pas comme ça qu'on fait de la morale. Hein. Vous ne pouvez pas trouver dans la première aux Thessaloniciens des normes morales, parce que la morale, on en a besoin quand on s'installe dans l'histoire. Mais si Jésus revient demain, à quoi bon faire de la morale? Vous avez du coup ces déclarations étonnantes de Paul, à savoir, si vous êtes marié, restez marié. Vous vous souvenez de ça, hein? Si vous n'êtes pas marié, ne vous mariez pas. Donc il n'y a pas de morale conjugale chez Paul dans des textes comme ça. Pourquoi on ne se marie pas? Pourquoi ceux qui sont mariés restent mariés? Ce n'est pas des choix moraux de Paul. Ça ne dit rien sur le mariage aujourd'hui. Ça dit simplement que Paul, ou l'auteur de la lettre, attendait le retour imminent de Jésus avant de mourir. Donc, ce n'est pas le temps de la morale, c'est le temps du salut. Donc, trouver un enseignement conjugal dans ces épîtres de Paul, ce n'est pas la peine. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'était l'urgence. C'est beaucoup moins vrai dans ce qu'on appelle les épîtres deutéro-pauliniennes, hein, c'est-à-dire les Colossiens, par exemple, hein, où la plupart maintenant, alors encore, je ne sais pas, vous demanderez à votre spécialiste de Paul préféré, mais il était admis, quand j'étais jeune et beau, que les Colossiens, etc., étaient des épîtres qui n'étaient pas rédigés par Paul lui-même, hein, mais par une école d'auteurs, puisque vous savez que dans l'Antiquité, pas seulement d'ailleurs pour l'écriture, hein, mais dans l'Antiquité, il n'y a pas de notion de propriété littéraire. Maintenant, pour un éditeur, c'est aberrant, mais à l'époque, il n'y a pas de notion de propriété littéraire. Donc, vous pouviez écrire et signer Paul, alors que ce n'est pas vous qui avez écrit. Mais si vous êtes disciple de Paul, vous pouvez signer Paul si vous faites partie de son école. Bon, Colossiens n'est probablement pas de Paul, lui-même. Il y a quelques, je crois qu'il y a quelques rares exégètes qui maintiennent que c'est de lui, mais je crois que la plupart, la grande majorité considère que ce n'est pas de lui. Et alors on trouve dans ces épîtres deutéropauliniennes ce qu'on appelle les, alors là mesdames ou messieurs, ce qu'on appelle habituellement les codes domestiques. Les codes domestiques, domus, hein, la maison en latin, ah ben là, ça parle du mariage et de la famille. Et là, je suis sûr que vous allez vous présenter le célèbre texte auquel je vais faire allusion. On n'ose plus trop le sortir pour les mariages. Hein, je pense que ça vient dans votre tête. Hein. C'est ce merveilleux texte. Femme, soyez... Oui, voilà. Soyez, c'est pas la peine de brancher les micros, je l'entends d'ici. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alors, le mot soumission, c'est quand même du très lourd aujourd'hui. C'est quand même du très lourd. On peut, hein, il est, si vous regardez le rituel de préparation au mariage, ce texte y figure encore en bonne place. Donc, on pourrait très bien célébrer un mariage demain avec « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est un texte probablement d'une école paulinienne. Et alors, je pose la question, ou je renvoie la question à qui me l'a posée tout à l'heure, comment voulez-vous aujourd'hui interpréter ce texte ? Il faut forcément l'interpréter. « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Je voudrais bien inviter Marlène Schiappa, hein, pour nous dire comment elle lit aujourd'hui ce texte. Ou la rabbin, puisqu'il n'y a, a plus qu'un rabbin en France maintenant, c'est Delphine Horweiler, hein, comment elle lit ce texte chrétien « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Qu'est-ce qu'on peut entendre ? Qu'est-ce qu'une femme catholique du XXIe siècle entend par « Femmes, soyez soumises à vos maris » dans une préparation de mariage ? Donc, la relation entre l'homme et la femme qui est décrite par Paul ou quel que soit l'auteur ou l'école d'auteur, il faut bien l'interpréter pour aujourd'hui, ça. Alors là, vous avez vraiment, c'est tellement clair, parce que vous avez des textes en plus qui sont des décalques parfaits. Dans ces textes-là, on les appelait les codes domestiques. Donc, les normes, si vous voulez, tables en usage, pour définissant la relation entre l'homme et la femme dans cette école d'auteur. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi, là aussi chez Paul, le thème de l'alliance, hein, qui court dans beaucoup d'épîtres de Paul. Jésus-Christ a fondé la nouvelle alliance. Le Christ est l'époux. L'Église est l'épouse. Le Christ est un homme, l'épouse est une femme. Alors, on l'a dit aussi pour la Vierge Marie, etc. Et donc, le thème de la nouvelle alliance, qui renouvelle celui de l'ancienne, la Genèse, est un thème qui est théologique, qui est... c'est un thème central, si vous voulez, de la morale néo-testamentaire, mais qui part d'une relation entre l'homme et la femme, qui de fait place le Christ, si vous voulez, l'époux, en position dominante par rapport à l'épouse, hein, qui n'a de vocation que d'obéir à l'époux, de dire oui à l'époux. Vous voyez, on retrouve ce texte commenté par Jean-Paul II dans son encyclique, hein, en disant la vocation de la femme, c'est de répondre oui à l'appel du Christ époux. Ça porte un nom un peu technique c'est ce qu'on appelle, parce que c'est le mot latin, la sponsalité. Sponsalité. Alors, si vous avez envie d'écrire une thèse sur la sponsalité, je serais très heureux de la lire. Mais vous voyez bien que ce sont des thèmes centraux du Nouveau Testament qu'on est obligé de réinterpréter pour aujourd'hui, hein, pour pouvoir encore en profiter. Vous voyez, on a donc une différence déjà chez Paul entre la première aux Thessaloniciens, alors là c'est vraiment Paul, parce que si ce n'est pas Paul, là je ne comprends plus rien, et les épîtres deutéropauliniennes, où cette fois-ci, on a des codes domestiques. Mais les deutéropauliniennes sont postérieures. Si je prends les évangiles, alors les évangiles, c'est là aussi il y a une variété. Hein. Vous savez, on a l'habitude de parler de avec saint Irénée de Lyon, donc parler de l'évangile tétramorphe, donc l'évangile en quatre formes. Hein. Irénée de Lyon disait ça parce que au lieu de parler de quatre évangiles, il préférait parler d'un unique évangile en quatre formes. Donc les trois synoptiques et puis Jean, dont vous savez l'originalité d'ailleurs. Hein. Jean qui n'est pas qui est plutôt le plus tardif dans les évangiles, le plus proche du Christ étant plutôt Luc. Luc, Marc, Matthieu, ça se joue entre 60 et 80, et puis Jean, je crois, si je me souviens bien, est un peu plus tardif. Bon, mais si vous prenez les quatre évangiles, ce n'est pas la même morale. Plus on s'éloigne de la première aux Thessaloniciens, plus on s'éloigne de Jésus, plus on constate quoi ? Que Jésus ne revient pas. Et que donc le thème de l'imminence du retour du Christ, eh ben, ce n'est pas si imminent que ça. Autrement dit, puisque le Christ ne revient pas pour le moment, s'ouvre pour l'Église le temps de l'histoire. Et le temps de l'histoire, c'est le temps de la morale. La morale chrétienne n'a de sens, vous voyez, que parce que tout à coup, les chrétiens se rendent compte qu'ils ont du temps, qu'il va y avoir plusieurs générations, contrairement à ce qu'ils pensaient, plusieurs générations après le Christ, et que donc, ils ont besoin d'une morale. Donc, la morale, la théologie morale, naît d'une déception fondamentale qui est la déception du non-retour glorieux du Christ. Donc, il faut bien s'inscrire dans l'histoire, il faut bien consentir à une forme de morale. Et alors, le Nouveau Testament va décliner des accents moraux ou éthiques un peu différents. C'est ça, sur ça que je voudrais vous laisser. Bon, par exemple, Luc. L'évangile de Luc, il va essayer de définir une morale. Vous allez vite trouver, si vous cherchez un peu, quel est un des grands thèmes dominants de la morale de Luc, ou de Luc, de Luc. Pour ceux qui ont une familiarité avec l'évangile de Luc, il y a un thème majeur qu'on retrouve tout le temps chez Luc, c'est la miséricorde. Hein, Luc est souvent présenté comme l'évangéliste de la miséricorde. D'ailleurs, c'est comme ça que les papes en ont parlé, c'est comme ça aussi dans les encycliques d'ailleurs récentes, on retrouve ça. Le pape François, l'année de la miséricorde, c'était aussi beaucoup l'évangile de Luc. Alors, quand je dis que l'évangile de Luc, c'est l'évangile de la miséricorde, ça veut dire que donc, les chrétiens s'inscrivent dans l'histoire, s'ouvre le temps de la morale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens vont devoir trouver, je vais prendre ce mot-là, une identité dans le monde. Il va falloir dessiner les contours, les caractéristiques de l'identité chrétienne dans le monde, étant donné que Jésus, encore une fois, ne revient pas tout de suite. Donc, il faut que les chrétiens dessinent leur identité par rapport aux autres communautés, par rapport aux païens. Il faut qu'on puisse identifier un chrétien à son mode de vie, donc à sa morale. Eh bien, on reconnaît un chrétien à quoi dans Saint-Luc ? Il est celui qui pratique la miséricorde envers son prochain. Donc la caractéristique morale de la religion chrétienne, vous êtes chrétien si vous pratiquez la miséricorde. L'identité chrétienne, à partir de Luc, c'est une morale de la miséricorde. Tout l'évangile de Luc est parsemé, si vous voulez, est fléché par ce cap qui est le cap de la miséricorde. Ça, pour aujourd'hui, vous voyez, ça n'a pas beaucoup besoin d'interprétation. Hein. On peut l'actualiser, si vous voulez, on peut l'appliquer, on doit l'appliquer. Mais l'identité chrétienne, c'est quoi ? C'est la pratique de la charité miséricordieuse. C'est à ça qu'on reconnaît un chrétien, une chrétienne. Alors, l'évangile de Matthieu. Là aussi, vous allez trouver, facilement, normalement, hein, l'évangile de Matthieu. D'abord, il vient d'où ? L'évangile de Matthieu, contrairement à l'évangile de Luc, qui est écrit dans un contexte, face aux païens, il faut trouver une identité face aux païens. L'évangile de Matthieu, il est écrit dans un contexte judéo-chrétien. Ce n'est pas pagano-chrétien, c'est judéo-chrétien. Et donc, quel est le thème de l'évangile de Matthieu, puisque Matthieu s'adresse à des chrétiens d'origine juive? Ben, c'est la loi. Donc, vous savez, c'est le fameux « je ne change pas un iota de la loi ». Je ne suis pas venu abolir, dit Matthieu fait dire à Jésus ça, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Donc, l'évangile de Matthieu, c'est un évangile qui va être préoccupé par le thème de la loi. Pour montrer aux juifs ou aux chrétiens d'origine juive qu'il ne s'agit pas, quand on devient chrétien, de négliger la loi, mais que le christianisme accomplit, et c'est tout le thème de l'accomplissement par Jésus de la première alliance. Et vous voyez, hein, le Christ de Matthieu, c'est un Christ qui est sensible à la Torah, c'est un Christ qui prie, c'est un Christ de... voilà. Très soucieux de la loi. Vous pouvez être un chrétien plutôt lucanien, très sensible au thème de la miséricorde. Vous pouvez être un chrétien plutôt mathéen. Et à ce moment-là, vous serez très sensible au thème de la loi et à montrer comment Jésus n'annule pas la loi, mais lui donne son achèvement original. C'est pas la même chose, hein. Du tout, c'est pas du tout la même chose. Vous savez, on dit aux gens quand ils sont trop miséricordieux, mais qu'est-ce que tu fais de ça ? C'est la miséricorde qui compte d'abord. Et si vous êtes plus mathéen, ça va pas se passer comme ça. Vous êtes plus mathéen, vous allez dire en toutes circonstances, ah, je vais pas négliger la loi, hein. Je vais éventuellement voir comment je peux l'accomplir, comment je peux la parachever dans mes décisions, etc. Mais je vais pas, certainement pas la négliger. Mais c'est des styles très différents. L'évangile de Jean, c'est encore différent. Hein. De toute façon, Jean est... Déjà, il est très différent, mais l'évangile de Jean, c'est un évangile qui n'est pas préoccupé par la morale. Il y a très peu de morale dans l'évangile de Jean. Contrairement à Luc et contrairement à Matthieu, il y a très peu de morale parce que pour reprendre le titre d'un très beau livre célèbre, les chrétiens dans l'évangile de Jean forment la communauté du disciple bien-aimé. Autrement dit, l'évangile de Jean, la préoccupation de l'évangile de Jean, c'est le salut. C'est pas du tout la morale. On est sauvé si on devient disciple de Jésus, si on se fie absolument à Jésus. Et donc la préoccupation centrale et constante de l'évangile de Jean, c'est pas la morale, c'est comment je vais être sauvé en rejoignant la communauté du Fils bien-aimé. Donc c'est pas un évangile moral, c'est un évangile, encore une fois, eschatologique et préoccupé par le salut, pas du tout par les prescriptions morales. Ce que d'ailleurs, ça veut dire quoi pour aujourd'hui? Ça veut dire que vous allez placer l'ordre du salut avant l'ordre de l'éthique. Si vous êtes un chrétien johannique, vous allez placer votre préoccupation constante, ça va être dans mes actions, etc. Comment j'arrive à me sauver moi-même, mais en sauvant mes frères, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est le souci constant va être le salut et non pas la loi ou les prescriptions morales. Toujours secondaire. Non, plutôt toujours seconde, pas secondaire, mais seconde. La morale est seconde, le salut est premier. Ça, c'est l'évangile de Jean. Vous voyez, ce n'est pas du tout Matthieu, ce n'est pas non plus tout à fait Luc. Quant à Marc, c'est un petit peu difficile, Marc. Marc, c'est avant tout l'évangile de la guérison. C'est les miracles et la guérison. Alors, ce n'est pas vraiment typique de la morale, c'est Marc a des préoccupations sanitaires, on va dire. La caractéristique de l'évangile de Marc, sont les miracles. C'est le Christ des miracles, c'est le Christ qui guérit. Et donc là, s'il y a une morale de l'évangile de Marc, c'est une morale de la guérison, et y compris de la guérison des corps. Voilà. Donc vous voyez pourquoi on parle d'un évangile. Enfin, saint Irénée parlait déjà d'un évangile tétramorphe parce que on a effectivement quatre styles d'éthique ou de morale un peu différents d'un évangile à l'autre. Et puis vous voyez que chez Paul, selon que l'on a affaire à un écrit de Paul assez ancien ou un écrit attribué à Paul assez récent, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et les évangiles étant un peu plus tardifs que les premiers textes de Paul, il faut, encore une fois, la grande préoccupation, c'est le temps de l'Église, et l'Église a besoin d'une morale pour vivre et pour se situer de façon, sur le plan d'identité, face au monde, et que le monde soit d'origine païenne ou d'origine juive. Ce ne sera pas la même morale. Cette petite démonstration, ce petit parcours rapide à travers les évangiles et Paul, vous montre, s'il le fallait, que... Alors, les théologiens aiment bien essayer de présenter les choses de manière claire et rationnelle, c'est-à-dire c'est quoi la morale biblique, ou bien y a-t-il une anthropologie biblique unique? Alors, on peut essayer de faire entrer tout ça ramener tout ça à quelques grands thèmes, ou bien on peut se dire il y a une pluralité d'éthique dans la Bible, ne serait-ce que dans le Nouveau Testament, hein, il y a une pluralité d'éthique, et c'est tant mieux pour le chrétien de tous les temps, mais pour le chrétien d'aujourd'hui aussi. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Ah, avec le micro, c'est mieux. Ah là, on vous entend pas.
Vous avez très très bien décrit avec les caractéristiques de chacun d'eux. Est-ce que vous faites une hiérarchie pour un chrétien lambda que je suis? Est-ce que chaque évangile et chaque évangéliste a la même valeur?
Oui, bien sûr. Non, il n'y a aucune hiérarchie à établir. Il n'y a pas une préoccupation ou un style éthique majeur ou qui serait plus central qu'un autre, et puis quelque chose de secondaire. Hein. C'est une bonne question, parce que c'est pas parce qu'il y a une pluralité d'éthiques que certaines vont être supérieures à d'autres. Nous avons besoin de cette pluralité, et cette pluralité répond à des contextes et des situations différentes, et il n'y a aucune hiérarchie à établir. Hein. C'est une pluralité qu'on peut solliciter selon les besoins du temps, et on peut être tour à tour plutôt mathéen, plutôt lucanien ou plutôt johannique. Il n'y a aucune hiérarchie. Ce qui fait difficulté, vous l'avez pressenti, ce sont premièrement les questions morales qui n'existent pas du tout dans la Bible. Il y en a. Ou c'est les questions morales dont on peut avoir l'impression, quand on est un chrétien en 2021, je vais aller un peu vite, mais que la Bible a beaucoup vieilli, si vous voulez. Hein. Je me rappelle d'un étudiant avec moi en théologie dans les premières années qui disait spontanément au professeur: « Je trouve que la Bible, c'est très mal écrit. » Mais cette réflexion amusante, mais si vous voulez, je vais prendre par exemple, bon, j'ai donné le cas des codes domestiques, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Je prends une autre question, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de l'homosexualité. Si on prend un des grands textes de référence qui a donné l'expression en français sodomite, hein, c'est le texte de Sodome et Gomorre, bon, dans le livre de la Genèse. Bon. C'est sur ce texte qui a été d'ailleurs forgé le mot, mais c'est sur ce texte qui a été forgée une bonne partie de la doctrine morale sur l'homosexualité et de la réprobation et de la condamnation des actes homosexuels. D'accord, on a tous plus ou moins ça en tête. Vous trouvez encore ça dans les textes récents du magistère. Bon. Mais là, on a besoin de nos amis exégètes, parce que ce qui est à peu près établi maintenant par beaucoup d'exégètes, c'est que le texte de Sodome et Gomorre ne parle pas directement d'homosexualité. Hein? Le texte de Sodome et Gomorre parle de deux questions essentielles. La question de l'altérité, le refus de l'altérité, et la question... Là, je commence vraiment à fatiguer. La question de l'altérité et la question du viol. Parce que si vous vous souvenez bien de ce texte, c'est l'histoire d'un viol aussi. Mais le viol, qu'est-ce que c'est d'ailleurs, si ce n'est le refus le refus majeur, le refus total de l'altérité de l'autre. c'est l'histoire d'un viol. Hein. Ce n'est pas d'abord l'histoire de l'homosexualité, de la condamnation de l'homosexualité, qui est quelque chose qui est un peu latéral. Le premier plan, c'est l'histoire d'un viol, donc le refus de l'altérité et la toute-puissance sur l'autre, etc. Ça, on le sait maintenant, parce qu'on le sait avec l'exégèse moderne. Hein? Mais ça n'a pas empêché les premiers textes chrétiens, comme le magistère récent, de dire « Oh là là, attention, les sodomites, l'acte homosexuel est condamné dans le texte de Sodome et Gomorre. » Non ! Ce texte-là ne résiste pas quand on le lit avec une exégèse moderne. Il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament qui, eux, sont un peu plus sévères sur le, à vrai dire, les actes homosexuels, mais pas tellement Sodome et Gomorre. Vous voyez, donc, il y a deux problèmes quand on fait de la morale, quand on est moraliste et quand on lit la Bible. Le premier, c'est ce qui... Le premier problème, c'est... Il y en a même trois. Le premier, c'est de solliciter le texte, donc je vous l'ai dit tout à l'heure. Le deuxième problème, c'est les silences. Qu'est-ce qu'on fait d'un silence de l'Écriture sainte sur une question morale? Alors quoi? On forge une morale à partir de quoi? À partir de rien? Il faut bien qu'il y ait un appui scripturaire. Il faut bien chercher, même si la Bible n'en parle pas directement, peut-être qu'elle en parle indirectement, qu'elle l'évoque, qu'on a quand même des instruments qui permettent de répondre à notre question. Aucune question morale pointue d'aujourd'hui ne peut s'épargner l'effort de se dire, mais qu'en dit l'Écriture, au moins peut-être latéralement, indirectement. Donc la question, c'est la question du silence moral de l'Écriture. Encore une fois, la grande question pour le Nouveau Testament, c'est le silence moral de Jésus sur la plupart des questions de morale. Il n'y a pas, à part le divorce, il n'y a pas grand-chose en termes de morale, l'amour du prochain, excusez-moi, mais c'est un thème général, mais quand vous regardez la morale spéciale de Jésus, il n'y en a pratiquement pas, à part le divorce. Et donc, comment vous faites aujourd'hui? Peut-on s'autoriser d'un silence de Jésus sur les questions de morale? Et puis, le dernier problème, donc le troisième problème, c'est lorsque on a l'impression, comme je viens de vous le montrer, « Femmes, soyez soumises à vos maris », que tout simplement en 2021, pour une chrétienne ou un chrétien de 2021, ce qu'a dit la Bible, on est obligé, la Bible en parle, mais sous une forme qui ne nous semble plus, à tort ou à raison, adéquate. Adéquate à notre contexte humain, à notre contexte ecclésial, à notre... Voilà. Et là, on est obligé, mais pourquoi pas, c'est très bien d'ailleurs, on est obligé à une herméneutique, c'est-à-dire à un travail d'interprétation du texte biblique. Hein? C'est ce que dit l'Écriture lui-même d'ailleurs, la lettre tue, l'esprit fait vivre. Bon, précisément, si la lettre tue et que l'esprit fait vivre, eh bien c'est à nous, inspirés par l'esprit et en communion avec... nos frères croyants et avec l'autorité, évidemment, d'interpréter, de faire... Vous savez, c'est le principe de Saint Grégoire, hein, le Grand, l'Écriture avance avec ceux qui la lisent. Ça, c'est un... Voilà, c'est ça, la définition de l'herméneutique biblique, c'est ça. L'Écriture avance avec ceux qui la lisent. Et donc, si on trouve qu'il y a une incongruité aujourd'hui à dire « Femmes, soyez soumises à vos maris », eh bien, il faut interpréter ce texte. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Dans un climat d'égalité homme-femme, dans un climat de parité, qui touche également, bien entendu, le couple catholique, heureusement d'ailleurs. Hein, comment on entend aujourd'hui ce texte? Vous voyez, donc les problèmes, c'est la grande chance, à mon avis, c'est la variété des modèles éthiques. Ce qu'on voyait, que l'Écriture cherche à répondre, à s'incarner dans différentes situations éthiques. Hein, mais les problèmes que nous avons, c'est la sollicitation des textes, l'absence, deuxième problème, de tel ou tel texte sur telle ou telle question de morale, et troisièmement, la nécessité d'interpréter des textes, encore une fois, qui, à tort ou à raison, On se dit que c'est plus possible de le garder tel quel, il faut pouvoir l'actualiser. Mais on ne peut pas le faire directement. Un protestant, il va le faire directement. En catholique, le catholique est obligé d'inter... Enfin, la foi catholique, la régulation catholique se fait en communauté et sous l'autorité, une autorité très centralisée, qui est l'autorité romaine.
Juste une question, je comprends bien ce que vous dites sur la sollicitation, c'est-à-dire presque même l'instrumentalisation du texte biblique, et puis son silence sur tout un tas de sujets. En revanche, l'expression pluralité de modèle éthique, est-ce que réellement, c'est pas plutôt qu'il y a des accents différents d'un évangile à l'autre, mais est-ce qu'il y a réellement des moments où vous sentez presque quelque chose qui serait de l'ordre d'une opposition entre ces modèles, où là, ça va quand même trop loin? Parce que, sur les textes de Paul, je vois bien, puisqu'il y a des contextes assez différents, mais entre les évangiles, moi, j'ai plus l'impression que c'est des différences d'accent, mais je ne sais pas si... Enfin, pluralité de modèles éthiques, ça me semble
l'expression
forte, en fait.
Oui, non, pluralité de modèles éthiques ou d'éthique, l'expression n'est pas de moi, elle est d'un théologien qui s'appelle Fuchs, Eric Fuchs. C'est peut-être à l'effort. C'est pour ça que j'ai cité également Saint-Irénée et l'évangile tétramorphe. Hein. Donc, on peut se contenter à minima de dire les accents différents. C'est vrai pour les évangiles, c'est plus difficile pour Paul. Hein. Et puis, on pourrait faire le travail aussi pour les épîtres, les deux épîtres de Pierre, hein, par exemple, et les épîtres de Jean, etc. Hein. Pluralité, ça me paraît juste de le dire. Il y a une pluralité ou une diversité. Pluralité de modèles, c'est peut-être excessif, mais à contrario, je trouve que se contenter d'accents différents, c'est un peu faible. Parce que vous voyez, chez Paul, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je trouverais plutôt pas mal de laisser vivre cette pluralité, oui. En tout cas, ce qui me paraît impossible, c'est de l'expression morale biblique. Ou alors, vous êtes obligé, dès que vous ouvrez votre bibliothèque ou votre dossier morale biblique, vous êtes obligé de prendre des sous-dossiers, hein, et de faire un paquet global après en disant « c'est la morale biblique ». Mais vous voyez que c'est pas... Si j'avais fait la même enquête sur l'Ancien Testament, vous avez par exemple des morales ou des éthiques très centrées sur le culte, évidemment. Ce n'est pas du tout la même chose que les petits prophètes. C'est encore autre chose dans le corpus le plus récent de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Le corpus le plus récent de l'Ancien Testament, je vous le rappelle, ce sont les écrits de sagesse. Donc, c'est la fin de l'Ancien Testament, et c'est ce qui est le plus proche de nous dans la chronologie. Mais ce sont les textes qui sont le plus marqués par une tonalité grecque. Les livres de sagesse, la morale des livres de sagesse, c'est une morale de sagesse. Chère chrétienne présente dans ce télétravail, c'est quand même dans les écrits de sagesse l'auteur d'un des écrits de sagesse recommande aux femmes de se taire. Alors là aussi, vous voyez, c'est faut peut-être en faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Hein, mais vous voyez, vous sentez bien que des écrits qui sont avec des auteurs grecs, si vous vous souvenez de votre cours d'exégèse, c'est dans la partie grecque de l'Ancien Testament, on voit émerger le concept ce qu'on appelle l'âme, hein, c'est l'âme et l'esprit, et le concept de résurrection individuelle, de résurrection des corps, de résurrection de la chair. Ça, c'est une anthropologie qui est tardive dans l'Ancien Testament et qui est propre aux textes les plus récents, ce sont les textes grecs. Dans les textes les plus anciens, de l'Ancien Testament, il n'est pas du tout question de cette anthropologie-là, pas du tout. Donc, vous voyez, c'est déjà sur le plan anthropologique, donc l'anthropologie, c'est un gros mot pour dire conception de l'homme, hein, c'est pas beaucoup mieux comme ça. Dans la conception de l'homme et de la femme, on devrait dire comme ça, de la Genèse, où l'anthropologie de base, c'est quoi? C'est la respiration. L'homme est vivant parce qu'il respire. Le souffle de Dieu entre là et il sort. Voilà. Je respire, je rends l'esprit, comme on dit en français, Jésus rendit l'esprit, en fait, il rend le souffle qu'il a reçu. Ça, c'est l'anthropologie, et une anthropologie tout à fait différente, hein, où l'anthropologie sémite, quand vous avez un problème de cœur, hein, avoir du cœur, anthropologie sémite, le cœur, il n'est pas là, il est là. C'est-à-dire que c'est les entrailles. Hein, quand on essaye maintenant de respirer par le souffle, la respiration ventrale, c'est l'anthropologie hébraïque, sémite. Hein? Les Grecs, dans les textes les plus récents de l'Ancien Testament, vont commencer à parler de l'âme et du corps. Vous voyez, on a là encore, ce sont des alors là, on peut, là, je pense quand même, vous voyez, pour l'anthropologie, il y a des modèles anthropologiques différents. Là, pour l'Ancien Testament, point de vue anthropologique, ça me paraît évident. Parce que franchement, entre l'anthropologie hébraïque et l'anthropologie grecque plus tardive, là, il y a quand même très, très grosse différence. Donc, le texte le dit, hein, la Bible, Biblia, en grec, c'est les livres. Donc, il n'est pas du tout étonnant que les livres, rassemblés en un seul, nous proposent une certaine, fassent vivre une certaine pluralité. Alors, je ne sens pas du tout d'opposition, hein, on peut, si vous voulez, parler de complémentarité, mais c'est une complémentarité de modèles qui sont un petit peu en tension.
Oui, est-ce que je peux revenir sur un point de tout à l'heure? Vous avez dit, en parlant des écrits du magistère, qu'il y avait une tendance dans les écrits du magistère à établir la norme, établir une règle morale, et ensuite appeler l'écriture en appui.
Oui.
Faire appui sur certains textes qui allaient dans le même sens. Et je comprenais en disant ça que vous disiez finalement c'est une méthode qui n'est pas tout à fait incontestable. Et donc, ça voudrait dire qu'on devrait faire l'inverse, c'est-à-dire on prendrait donc l'écriture et on essaierait d'en faire émerger un certain nombre de règles. Et la dernière demi-heure qu'on vient de passer semble nous démontrer que malheureusement, on n'en reçoit pas grand-chose, puisque l'Évangile est sujet à beaucoup d'interprétations, il y a des anthropologies différentes, il y a des ambiances différentes des évangélistes. Donc finalement, on en ressort un petit peu perdu.
Non, on en sort perdu que si on cherche on n'en sort pas perdu parce que le Christ est l'interprète de l'ensemble. Donc on n'est pas perdu si on se laisse guider par le Christ, puisque le Christ est le sommet de la révélation et que le Christ est présent dans le moindre verset, le moindre iota souscrit de n'importe quel texte de l'Écriture. Hein. Mais je comprends que l'idée d'une pluralité soit un petit peu difficile à entendre, mais je donnais le mauvais exemple de certains textes du magistère. Mais à contrario, regardez le principe même, je vais en parler la prochaine fois, de l'exégèse juive. Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice ou vu une Bible commentée par la tradition juive de commentaires. Vous avez le texte de l'Écriture en colonne. Et après, vous avez tous les commentaires autour des rabbins, etc. Ça, c'est une manière de laisser parler le texte et de le transmettre d'époque à époque, de génération en génération. Hein. C'est-à-dire que c'est très beau d'ailleurs à voir. Hein. Je ne sais pas où ils en sont, mais il y a un projet qui devrait maintenant être en grande partie réalisé à l'École biblique de Jérusalem, il y a un projet de publier une Bible avec l'intégralité, alors je ne sais pas comment ils vont, c'est très compliqué cette affaire, ça fait plus de 10 ans que ça dure, les commentaires juifs et les commentaires patristiques. Donc, on prend le texte et puis on commente. On n'en finit pas de commenter. Hein. Et ça, c'est une Bible vivante, c'est une tradition vivante, vous voyez. Mais on part bien du texte et on vient commenter. C'est-à-dire que on sort le fruit, si vous voulez, spirituel, du texte lui-même. Alors que nous qui sommes habitués à la raison, à la rationalité d'ailleurs, grecque et occidentale, que fait le magistère? Il réfléchit d'abord, et puis il se dit, ma réflexion, est-ce qu'elle est validée par l'écriture, ou bien est-ce que je dis une bêtise? Si elle est valide, si je peux la valider par l'écriture, alors je continue à réfléchir et je propose comme une norme. On voit bien que l'écriture apparaît comme un soutien de ma réflexion. Mais ce n'est pas suffisant. Le principe de l'herméneutique, le principe donc de Saint Grégoire le Grand, c'est l'écriture avance avec celui ou celle qui la lit. Saint Augustin, d'ailleurs, n'a pas dit autre chose, hein, prend et lit. Alors, c'est beaucoup plus risqué de faire ça, parce que parfois, vous allez prendre et lire et vous ne trouverez pas grand-chose. Ou vous ne trouverez pas ce que vous pensez y trouver, vous allez trouver autre chose. Je l'ai dit, par exemple, sur le récit de Sodome et Gomorre, c'est comme ça qu'on a fait une petite révolution exégétique, hein, en s'apercevant que ça ne parlait pas de ce qu'on appelle aujourd'hui la sodomie, justement en commentant le texte. Prends et lis. Qu'est-ce que tu lis là? Encore une fois, notre méthode à nous, elle est réflexive, elle est occidentale, c'est pas Jérusalem, c'est Athènes. Athènes réfléchit, spécule, c'est le logos. Puis après, on vient voir ce qu'en raconte l'écriture et si je peux, si je peux appuyer mon texte. Mais alors, je ne dis pas que tous les textes du magistère sont comme ça. Je dis que c'est, vous pouvez le repérer dans certains textes. Mais si vous prenez par exemple l'encyclique de Jean-Paul II sur, je ne sais plus si c'est Veritatis Splendor ou Fides et Ratio, mais c'est un commentaire de la parabole du fils prodigue. Alors c'est intéressant parce que là on a un pape qui commente une parabole évangélique. Mais allez regarder comment il commente la parabole évangélique. Comment Jean-Paul II, moraliste, il était d'ailleurs lui-même, sa formation en Jean-Paul II, c'est l'anthropologie morale, philosophie, anthropologie morale. Bon, allez voir comment Jean-Paul II, moraliste, lit la parabole du fils prodigue. C'est très intéressant. Je crois que c'est, je ne sais plus si c'est la Splendeur de la vérité ou Foi et raison, je crois que c'est Splendeur de la vérité. Et le commentaire de cet évangile structure l'ensemble de son encyclique. Ah, c'est un peu différent, hein, voyez. Ce n'est pas simplement je vais chercher en soutien, c'est on prend la parabole et on se laisse guider par la parabole d'un bout à l'autre. Mais évidemment, le péché mignon des théologiens, hein, c'est de se contenter de prendre le texte pour un prétexte. Et ça, vous voyez, quand vous voyez la grande tradition de l'exégèse juive, et je vais en parler la prochaine fois, de l'exégèse des pères de l'Église, ce n'est pas très satisfaisant. Voilà, il est 22h pile. Je termine mes 6 heures de télétravail, donc ça, je suis content. J'espère que j'ai tenu la rampe à peu près convenablement. Je vous remercie de votre patience et de votre attention. Et donc, nous nous retrouvons pour certaines la semaine prochaine et pour d'autres après les merveilleux congés que nous allons vivre grâce à l'épidémie et au gouvernement. Fin de cette... de ce cours. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
J'arrête l'enregistrement.
Reposez-vous.